Mais dans le roman que vous allez nous présenter maintenant, Lynn, il y a des séparatistes qui tremblent encore plus violemment.
Ben, des séparatistes, des non-séparatistes.
Ah oui, tout le monde.
C'est pas mal 50-50
au Québec. Au dernier référendum, ça l'était, en tout cas.
Oui, on s'attend pas mal à ce que ce soit encore 50-50 dans Shaken Allegiances, le roman de mon invité, Michel Bruneau, qui a traversé la frontière pour venir nous voir ce matin. Bonjour, Michel.
Bonjour, c'est bienvenue. Plaisir d'être avec vous.
Ben, j'espère que vous avez passé sans faille à la frontière. on va parler de ce roman-là. Je le résume en quelques phrases. Hein. Je me livre à l'exercice, puis vous me corrigez. Ça se passe sur 48 heures. Montréal est l'épicentre d'un tremblement de terre de forte intensité. Au Québec, on est à la veille d'un référendum sur l'indépendance. On veut donc éviter à tout prix de demander l'aide d'Ottawa. Et évidemment, le fédéral, lui, veut à tout prix envoyer de l'aide pour faire la démonstration que le Québec n'est pas capable de s'en sortir tout seul en tant que nation. C'est à peu près... Ça résume bien?
Oui, quand ça va bien, ça va bien. Il ne faut pas oublier que c'est quand même en plein milieu de l'hiver et qu'il fait moins 40.
Ah oui, en plus, un tremblement de terre de forte intensité, mais en plein milieu de l'hiver alors qu'il fait moins 40. Michel, on va parler de vous un petit peu.
D'accord.
Vous êtes Québécois de
oui,
souche.
Oui.
Vous avez vécu en Ontario pendant une dizaine d'années.
J'ai travaillé à Toronto pendant 3 ans. J'ai aussi travaillé à l'Université d'Ottawa pendant 9 ans.
Oui.
Et puis, je suis maintenant à l'Université de Buffalo.
Qu'est-ce qui vous a amené à Buffalo?
Ah, oh, c'est le téléphone qui a sonné le matin,
ah,
avec
oui?
une offre qu'on ne pouvait pas refuser.
Et vous êtes quand même demeuré visiblement très proche de la scène politique canadienne, autant sur la scène provinciale au Québec que sur la scène nationale. Ça se voit dans votre roman, parce que les personnages ressemblent à s'y méprendre parfois avec des vrais personnages qu'on rencontre dans nos différents parlements.
Peut-être que ça peut donner cette impression-là. Par contre, comme tout roman, c'est un... des personnages créés avec de l'ADN un peu partout. Hein. C'est des amalgames.
Alors, mais il y en a qui ont l'ADN plus fort que d'autres.
Peut-être, mais je me suis fait...
plus identifiable.
Il y a des gens qui ont été identifiés, peut-être, mais il ne faut pas perdre de vue que ça a été commencé, ça, il y a environ 12 ans.
Ah.
Alors que la plupart des personnages contemporains auxquels les gens pensent n'étaient pas là.
Mmh.
Et puis, bon, ça a ralenti
énormément.
Ça fait énormément.
Peur, ça. Vous avez un don de visionnaire?
Non, mais ben, dans le fond, c'est la nature humaine. Dans le fond, le roman se concentre sur certains côtés plus noirs de la nature humaine. Et puis ça change pas beaucoup d'année en année, finalement.
Vous êtes vous-même, celui qui décrit votre roman comme étant à saveur absurdiste.
C'est ce que certains m'en ont dit. C'est pas faux, peut-être, parce que j'ai quand même beaucoup aimé des choses comme En attendant Godot et puis les idées de Franz Kafka.
Ouais.
Et puis ça se reflète probablement dans l'écriture, c'est sûr.
Est-ce que c'est une mise en garde à vos lecteurs, ça, quand vous le précisez, que c'est un roman à saveur absurdiste? Est-ce que c'est pour leur faire comprendre dès le départ que ils vont être confrontés à quelque chose qui peut les déstabiliser un petit peu?
Mais ça serait plate un peu que quelqu'un jette ça en pensant à lire une romance ou une histoire de vampire, tu sais. Fait qu'il faut être quand même un peu clair au début de quoi ça parle. Et c'est évident que ça, c'est un peu les déboires d'une poignée d'égocentriques qui réussissent à rendre les choses pires encore que ce qu'elles sont après un tremblement de terre. Et puis c'est aussi un peu l'anti-histoire de désastre. Là. C'est pas l'histoire conventionnelle que Hollywood nous a servi pendant des années. Il y a pas d'héros, il y a pas de Arnold Schwarzenegger qui va venir nous sauver à la fin. C'est plutôt de suivre ces gens-là qui essayent toutes de tirer la couverte de leur côté et qui réussissent finalement à créer un autre désastre.
Absolument,
oui. C'est, ouais. Le tremblement de terre, dans le fond, c'est juste une métaphore pour le désastre de nature humaine qui transpire à travers l'écrit.
Oui, puis quand on regarde la façon dont les autorités politiques et civiles réagissent, on se dit que le tremblement de terre, finalement, c'est un moindre mal.
Mais on ne voit pas beaucoup dans le livre ce qui se passe aux gens. C'est surtout, c'est la périphérie, c'est ces gens-là qui sont un peu cinglés, finalement, qui réussissent à rendre la catastrophe interminable.
Je lisais le livre et je me disais, mais ce sont d'horribles gens. Ils travaillent tous pour leur agenda personnel, ils sont menteurs, ils sont profiteurs. Et là, je parle des personnages qui sont et les premiers ministres du Québec et du Canada, les gens des États-Unis à qui on fait appel, les autorités de l'État civil, etc., etc. Il n'y a personne, les journalistes aussi, les gens des médias, les fonctionnaires, il n'y a personne qui trouve grâce à vos yeux là, dans ce roman-là.
Ben, c'est très égalitaire d'un certain point de vue.
Très égalitaire.
Et puis,
tous des écœurs.
Ben, c'est quand même pas des crapules. Ce qui m'intéresse Michel. Là-dedans, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est un peu la ligne qui divise entre la bêtise humaine et la folie.
Est très mince.
Une ligne très, très mince, c'est qu'on traverse parfois sans s'en rendre compte, moi le premier. Et puis, ce qui m'a attiré dans en écrivant ce roman-là, c'est l'aspect additionnel où on a beaucoup encouragé l'individualisme pendant des années. Et qu'est-ce qui arrive quand ces gens-là qui ont des égos qui passent plus à travers les portes sont en charge, ont le pouvoir, ont les capacités décisionnelles,
oui.
mais qui prennent toutes les décisions pour eux.
Ça, c'est intéressant. Comment, après avoir été entraîné et amené vers l'individualisme, on peut espérer que ces gens-là développent un esprit de collectivité? Ça n'arrive pas du jour au lendemain.
Mais c'est quand même ça qu'on vit un peu de nos jours. On en voit beaucoup de ça. Il y a des gens qui reçoivent des millions de dollars en bonus pour fermer des compagnies le plus vite possible.
Oui, absolument.
C'est la vie dans laquelle on vit. Puis ce qui est intéressant avec la littérature, c'est peut-être la seule, peut-être pas la seule, mais c'est une des sortes d'expressions artistiques qui permet d'aller voir ce qui se passe dans la tête des gens. Ce qui tourne rond, ce qui tourne carré, puis ce qui tourne pas du tout, finalement.
Est-ce qu'on pense que vous êtes quelqu'un de cynique, en général, Michel, dans la vie?
L'humour peut être cynique sans qu'on soit cynique pour autant. Je me dirais peut-être, je suis peut-être pessimiste, ça peut peut-être transpirer. Les gens qui sont pessimistes aiment dire qu'ils sont pas pessimistes, qu'ils sont plutôt réalistes. Alors, je pense que, c'est sûr que la personnalité transpire, mais je pense qu'un roman, c'est, à mon avis, quelque chose qui doit être quand même assez peaufiné. C'est pas les folichonneries qu'on peut sortir du premier coup, alors ça demande un peu de travail. Les folichonneries, on les garde pour les lettres de Noël, ces choses-là.
Alors, et qu'est-ce que ça... Bon, vous êtes professeur en génie des structures. Hein? Alors, ça vous donne quand même certaines connaissances et ça rend tout cela très crédible quand vous nous expliquez comment un pont réagit, pourquoi un pont tombe et un autre tombe pas, un édifice et tout ça. Évidemment, il y a cet aspect de Michel Bruneau qui est là. Est-ce que vous avez mis un petit peu de votre folie dans tous les personnages? Parce qu'il n'y a pas vraiment un personnage. On a tendance à vouloir toujours trouver « Ah, vous êtes un tel dans le roman, vous êtes un tel. » Vous, on ne peut pas, j'espère, vous identifier à quelqu'un en particulier.
Non, j'espère, parce que ce ne serait pas flatteur de me retrouver dans le roman. Mais je pense qu'un peu tout le monde essaie ça. Tout le monde essaie de se retrouver, de se reconnaître. Et je fais excessivement attention pour ne pas cibler personne dans ces choses-là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est des petits morceaux de la nature humaine qui se retrouve. Alors, c'est pas surprenant qu'on finisse par des fois penser à reconnaître quelqu'un.
Michel, quand on écrit, c'est pour être lu. Et oui. Je me demandais quel était votre public cible. Le livre est écrit en anglais. Il est publié aux États-Unis. On sait que la majorité des Américains s'intéressent très peu au Canada, encore moins à nos querelles constitutionnelles. Le reste du Canada en a un petit peu marre d'entendre parler de l'indépendance ou de la souveraineté du Québec, etc., etc. Pourquoi vous n'avez pas écrit ce livre-là en français en espérant atteindre un public québécois, par exemple?
C'est une très bonne question.
C'est alors qu'elle arrive à la fin.
Je comprends bien, s'il faut faire ça rapidement. Alors, la réponse rapide de ça, c'est que lorsque j'ai écrit mon dernier roman qui était en français, il y a beaucoup de gens que je rencontre internationalement à cause du milieu dans lequel je travaille, oui. qui étaient vraiment curieux de voir qu'est-ce qu'un ingénieur très cartésien pouvait écrire en littérature. Alors, je me dis, finalement, on va prendre le défi. On va l'écrire en anglais. Finalement, il y a autant de règles de grammaire malades en anglais qu'en français. Donc, il n'y a pas de désappointement sur ce côté-là. Et puis, c'est aussi, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens, quand ils savaient que je venais du Québec, aux États-Unis qui s'intéressaient à la crise constitutionnelle, qui voulaient savoir. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui s'intéressent au tremblement de terre. Il semblerait que quand on dit qu'on est ingénieur, on se retrouve tout seul à côté du bol à punch. Mais quand on dit qu'on est ingénieur quand on dit qu'on est ingénieur sismique, tout le monde veut savoir ce que l'infrastructure va nous tomber sur la tête. Alors, on peut juxtaposer ces idées-là d'une façon intéressante.
Mais on va permettre à un de nos auditeurs ou à une de nos auditrices de se faire une idée de est-ce que ce sont d'horribles gens? Est-ce que ce sont des personnages pas si pires? On offre le livre. C'est tout simple. Vous nous téléphonez au 1-866-576-0333. 1-866-576-0333 ou encore vous nous envoyez un petit mot à l'adresse courriel grandlac@radio-canada.ca et n'oubliez pas que ces grands lacs-là sont nombreux. Hein? On fait pas,
on a cinq.
Référence à juste notre lac Ontario. Alors, grandlac@radio-canada.ca. Si vous avez envie de passer, comme on le dit en sous-titre, « Two days from the continuum of nonsense ». Merci beaucoup, Michel
Merci.
Bruneau, d'avoir traversé la frontière pour nous rencontrer aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous accueillir.
Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. Et drôle de coïncidence, Lynn, puisqu'on parlait d'affrontement entre fédéralistes et indépendantistes. On a...